Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi vraiment de vous retrouver en direct. Et oui, Radio Foot, c'est le deuxième service ce mardi. Nous sommes toujours debout pour vous. La faute au Bayern, au Barça, Liverpool. La faute surtout à ces quelques notes. C'est que RFI est bien au rendez-vous de la Ligue des Champions et l'OM ferait bien de s'en inspirer. Marseille retombe, ou plutôt se complaît dans ses travers. Deuxième journée de la phase de groupe, défaite à la maison contre Francfort, 1-0. C'est désespérant, nous rejoindrons le Stade Vélodrome dans quelques instants. Le Barça n'est pas encore au niveau du Bayern, et même sans atteindre un niveau exceptionnel, le géant bavarois est toujours intraitable face à l'une de ses victimes favorites. 2-0 pour Sadio et ses coéquipiers dans le choc de la soirée. Tout à l'heure, au programme également, le succès dans la douleur de Liverpool, merci Joël Matip, ou encore le carton de Bruges à Porto. Oui, sachez que les murs du bureau de Radio Foot à RFI ont tremblé, puisque Cherif Guémour a adoré, il a dégusté comme du bon chocolat la prestation des Belges. Bonsoir Cherif.
Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
Vous avez même sorti votre guitare et composé une chanson pour l'occasion. Je plaisante évidemment, mais un jour on vous fera le piège. On vous a déjà fait gratter et chanter
dans ce studio.
Donc à mon avis, on le refera. L'autre visiteur du soir se nomme Gilles Verdez. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Impeccablement habillé, je le dis pour nos auditeurs et nos auditrices
j'ai
qui n'ont pas la chance de vous voir.
Donc j'essaye de masquer ça par
capillairement parlant, vous êtes plus classique, mais alors la petite veste bleu-gris, là, c'est parfait. David Finzel a bien sûr œuvré dans les coulisses aux côtés du maestro Laurent Salerno, notre réalisateur. Et en parlant de réalisateur, sachez que nous rendrons hommage à Jean-Luc Godard en fin d'émission, légende évidemment du 7e art du cinéma, figure de proue de la nouvelle vague, disparu. Quel rapport avec le sport, me direz-vous? Il y a un rapport entre eux, il y a des ponts, si je puis dire, entre Jean-Luc Godard et le sport. Et après tout, ses films n'étaient pas toujours faciles à suivre, mais il était audacieux. Alors nous allons lui rendre hommage en étant difficile à suivre, mais audacieux. Radio Foot, c'est parti.
Bailly. Voilà, Götze était plus proche de Lindström. Et Colomoigny qui recherche encore Lindström. Et le Vélodrome classé par le but.
Classé, climatisé, le stade Vélodrome de Marseille qu'on annonçait, qui a été incandescent au moins avant le début de rencontre. Marseille accueillait Francfort. Lindström, juste avant la pause, a douché les espoirs marseillais, les a ramenés à leur désespoir, surtout ces phocéens. Le stade Vélodrome où se trouve notre commentateur, notre journaliste, notre envoyé spécial pour RFI, Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Ouais, ça fait beaucoup pour un seul homme. Bonsoir Hugo, bonsoir tout le monde.
Oui, mais il fallait bien contrebalancer le rien du tout qu'a proposé, ou le presque rien du tout qu'a proposé Marseille ce soir. Deuxième journée de la Ligue des Champions après sa défaite à Londres contre Tottenham 2-0. Marseille s'incline à domicile 1-0. Ça en fait des défaites pour Marseille en Ligue des Champions dans les années qui nous intéressent, 2010, 2020. Les décennies se suivent et se ressemblent. Les Marseillais n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Un peu peut-être en fin de match, Thomas, mais la défaite ce soir, aller malheureusement pour eux assez logique.
Oui, pas à la hauteur de l'événement, pas à la hauteur de l'ambiance qu'avait proposé ce soir le Vélodrome. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, si vous entendez du bruit derrière moi, ce sont les supporters allemands qui sont toujours dans leur parkage, bien encadrés par les policiers. Et l'OM, tout à fait, pas à la hauteur même de la Ligue des Champions. On attendait qu'avec des joueurs comme Sanchez, cette équipe puisse passer un cap. Eh bien, pas du tout. Il a été décevant, le Chilien. Ils ont été tous un petit peu décevants finalement ce soir. Ils n'ont pas proposé grand-chose. Ils ont eu le ballon en première période, surtout la majorité du temps. Ils ont eu le contrôle, mais derrière, ils n'ont pas su faire grand-chose. Ils n'ont pas su proposer des enchaînements intéressants, des situations pour mettre en danger Kevin Trapp, l'ancien gardien du PSG, le gardien de Francfort. Et ils ont été brouillons. Il y a eu vraiment un nombre de passes manquées, de contrôle tibia. Je pense à Tavares, mais pas seulement lui. Enfin, c'était tout simplement pas du tout en termes de prestations individuelles au pluriel au niveau Ligue des Champions.
Une caricature de match d'une équipe française pas à la hauteur en Coupe d'Europe là, que vous nous déroulez, que vous nous présentez, mon cher Thomas.
Ouais, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est une équipe, je le répète, qui n'a pas su se mettre à la hauteur de l'événement, de la compétition. Une équipe qui a paru aussi en manque d'idées. L'entraîneur Igor Tudor a changé. Bon, il y a eu des blessures de Bailly notamment, mais il a changé de schéma deux ou trois fois dans le match. À un moment, c'était vraiment compliqué de s'y retrouver. On ne savait plus où jouer tel ou tel joueur. Klose qui a été trimballé à deux ou trois postes.
Il a sorti ce qu'on attendait. On attendait l'association Payet-Sanchez pour leur retour en Ligue des Champions. Ils ont été sortis. Et c'est presque là d'ailleurs que l'OM a montré son meilleur visage. Hein. Pour aller dans le sens de l'entraîneur croate.
Il a été sifflé au moment de faire ces changements, mais c'est vrai que les entrants Harit et Under ont apporté du gaz, on va dire. Mais derrière, franchement, je ne sais pas si vous avez pu voir l'occasion de Suarez à 5 mètres du but, le plat du pied, il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Il écrase complètement sa frappe, c'est dans les gants de Trapp, et ça en Ligue des Champions, c'est impardonnable. L'erreur qui amène le but de Francfort, la double erreur, Bailly d'abord et puis Rongier ensuite, même s'il est un petit peu malheureux, là aussi c'est pas du tout au niveau Ligue des Champions. Et alors à Tottenham, il y avait déjà eu des cadeaux, le carton rouge de Bemba, il y en a encore eu ce soir, et quand vous faites des cadeaux dans une compétition comme celle-là, bah vous le payez cash. Deux défaites en deux matchs, c'est pas cuit, mais c'est très très compromis pour la suite de cette compétition. Et peut-être que vous allez aborder ça d'ailleurs dans le débat avec vos consultants du soir, mais peut-être qu'on a vu finalement cet OM un peu trop beau avec ses résultats en Ligue 1. Il faut voir aussi l'adversité qu'il y avait en face. Il n'y a pas eu beaucoup de gros matchs cette saison pour l'instant pour l'Olympique de Marseille. On les attend au tournant aussi en championnat face à des équipes d'un niveau un peu plus relevé, du haut du panier, on va dire.
Oui, on rappelle que l'OM talonne le PSG avec le même nombre de points, même en tête du classement. En Ligue 1, le but de l'OM, le but encaissé plutôt par l'OM, on peut le raconter rapidement. Finalement, c'est une situation qui devrait être anodine, une erreur défensive. Vous avez deux joueurs qui viennent mettre un peu la panique, le bloc qui remonte et ça passe trop facilement jusqu'à Lindstrom qui vient ajuster tranquillement Paulo Lopez. C'est le symbole d'une équipe qui avait été endormie et qui s'est trop facilement inclinée sans jamais vraiment emballer cette rencontre. Gilles Verdez ou Chérif Guémour qui veut commencer, qui veut rebondir sur ce qui a été dit.
Trop de défaillances individuelles, là, deux défensives sur le but adverse, et puis offensivement, un manque de justesse, de précision, un milieu de terrain étouffé. C'est trop faible, voilà. Hélas, c'est beaucoup trop faible. Alors, rien n'est perdu dans le groupe, il faudra battre le Sporting, mais c'est beaucoup trop faible. Il y a trop d'écart de niveau entre Marseille et la Ligue des Champions. Pas forcément entre Marseille et Francfort, mais entre Marseille et la Ligue des Champions.
Alors, il y en a un qui n'est pas d'accord avec vous, c'est le milieu de terrain de l'OM, Jordan Verretou. À mon avis, ça ne va pas du tout vous plaire, et notamment à vous, Chérif Guémour, ce que dit l'ancien joueur de Nantes, de Saint-Etienne et de la Roma.
Oui, la déception. Après, on ne peut pas toujours être déçu. Et on a montré un beau visage, mais la première mi-temps, elle n'est pas suffisante, je pense. Voilà, en deuxième mi-temps, on essaie de pousser, revenir au score. Il manque ce dernier geste, ce dernier but pour être récompensé. Maintenant, faut pas tout jeter non plus. Il va falloir continuer à bosser parce que voilà, c'est pas suffisant en Champions League.
Jordan Verretou au micro de nos confrères de Canal+. Bon, j'exagère. Il reconnaît que la première mi-temps n'a pas été très bonne, mais ça ne vous fait pas un peu tiquer quand vous l'entendez dire que tout n'est pas à jeter parce qu'on n'est pas vraiment... On ne peut pas vraiment se satisfaire de ce qu'on a vu si on est supporter de Marseille ou si on suit le football français ce soir.
Non, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on mouille le maillot, on fait des efforts, on croit qu'on a accompli le contrat. Pas du tout. C'est pas ça qu'on demande à une équipe qui joue la Ligue des Champions. Moi, ce que je retiens de cette soirée, on va revenir sur Marseille. Voilà, une équipe comme Rouge, elle se déplace à Porto. Elle gagne 4-0. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut trouver les conditions qui font qu'on se surpasse. On voit Marseille, pendant deux matchs, ils ne se surpassent pas. Ils font jeu égal, soi-disant, contre Tottenham, mais jeu égal, c'est pas rentrer dans la compétition. La semaine dernière, le Sporting de Lisbonne se déplace à Francfort, et eux, ils y vont, ils se surpassent et ils gagnent 3-0. Mmh. C'est ça qu'on... Là, je rejoins ce que vous disiez sur ce qu'on attend des clubs français. On retrouve ce qu'on leur reproche régulièrement, périodiquement, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas prendre la mesure de l'événement. Ou alors tardivement, bon, on ne dit pas que c'est fini pour l'OM. Mais sinon, c'est dans la droite ligne de ce que fait l'OM en Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de volontarisme, il y a une débauche d'efforts, il y a l'appui du public, ils n'ont pas non plus affronté les plus grosses équipes. Et donc voilà, c'est un peu en trompe-l'œil, ils se retrouvent à en deuxième position derrière le PSG. Mais sur le fond du jeu, rien que le match de dimanche, ils ont encore été bousculés par Lille. Mais voilà, avec beaucoup d'efforts, avec le public qui pousse, ça fait du 2-1. Mais au moins en première mi-temps, Lille était au-dessus de Marseille.
Mais ce qui est fou, c'est le constat terrible, ce que vous disiez, Gilles Verdez, c'est que la Ligue des Champions est à des années-lumière. Alors le niveau des joueurs est à des années-lumière de la Ligue 1.
Mais bien sûr, Marseille en Ligue des Champions, sur les 8 derniers matchs, 2 buts. À un moment, les chiffres ne disent pas tout, mais les chiffres sont.
Les chiffres de l'OM, ils sont presque indigestes d'indigence.
C'est-à-dire qu'il n'y a que le Celtic et Anderlecht qui ont un pourcentage de défaites supérieur à celui de Marseille.
On est sur la 16e défaite sur les 17 derniers matchs.
Absolument, c'est ahurissant. C'est-à-dire que Marseille n'est plus une équipe de Ligue des Champions. Ils se qualifient, mais pour, j'allais dire bien figuré, non, mal figuré. Alors bon, encore une fois, il y a une rédemption possible. Attention, mathématiquement, le fait que le Sporting, pour l'instant, survole, voilà. Mais quand votre meilleur joueur, pratiquement,
là,
c'est votre gardien...
Là, ils sont derniers ce soir, quand même.
Oui, ils sont derniers.
Ouais.
Bon, on n'est qu'à la deuxième journée. Voilà.
Quand votre meilleur joueur, pour moi, c'est Paulo Lopez, votre gardien de but, qui évite sur plusieurs occasions de Francfort, que Marseille soit plus largement battu, c'est significatif. C'est un symbole.
Thomas de Saint-Léger, avant de vous libérer, avant que vous alliez interroger des acteurs, voire des spectateurs de cette rencontre des Marseillais déçus, un mot peut-être sur l'adversaire, le vainqueur du soir. On peut lui rendre hommage, Francfort. Qu'est-ce qui vous a
quand
plu
même
chez ces Allemands?
Mais j'allais pas leur rendre hommage, justement, et c'est presque ce qu'il y a de plus grave ce soir, c'est que c'est l'adversaire. Bon, j'ai pas vu, pour être tout à fait honnête, le Sporting, les matchs du Sporting dans leur intégralité, mais c'est l'adversaire sans doute le plus abordable pour Marseille dans cette poule, justement. J'ai trouvé que ce Francfort proposait pas grand chose. Il y a eu des occasions énormes de contre de 2-0 qu'ils ont quand même assez mal négocié. Donc c'est une équipe qui s'est principalement reposée ce soir sur une défense plutôt solide et un trap qui a été bon sur sa ligne, mais c'est pas une équipe qui propose grand chose, une équipe qui vous fait rêver, franchement.
C'est terrible, parce qu'on parle en plus d'une équipe de seconde partie de tableau en Bundesliga. Bon, qui a des caractéristiques, nous disait Ibrahima Traoré en première mi-temps, si je puis dire, dans la première émission du jour, et qui connaît bien la Bundesliga, évidemment, l'ancien capitaine du Sili, c'est une équipe de coupe, donc qui peut aussi, justement, sans être extraordinaire, réaliser de bonnes performances dans le cadre d'une compétition comme la Ligue des Champions.
Pas trop d'erreurs, pas trop de panique, des sorties de balles assez propres, ils prennent les espaces les espaces béants que Marseille a laissés au milieu de terrain, et derrière, ils ont fait leur match. C'est lisible. Une fois de plus, on parle de projet de jeu. Le projet de jeu, bon, il se met en place à Marseille, on ne va pas les accabler. Ils sont en retard, disons, par rapport à un certain niveau, que ce soit même pour moi en Ligue 1. Francfort est un peu plus avancé, même s'ils ont perdu des joueurs cet été. C'est lisible. Moi, quand je vois Francfort, c'est lisible. Ça ne me fait pas rêver, mais c'est lisible. Bah, ça suffit.
Et c'est le vainqueur en titre de la Ligue Europa. Là encore, si on parle un petit peu du gouffre qui sépare les équipes françaises du haut niveau européen.
Marseille, c'est Ligue Europa conférence.
Oui, où ils ne vont entre guillemets qu'en demi-finale. Et voilà, c'est une équipe qui est capable de réussir en Europe, là où les équipes françaises échouent. Donc là encore, il y a presque une hiérarchie logique, même si on ne peut pas tirer 100 000 enseignements d'un seul match.
Non, mais l'entraîneur de Francfort, il a appliqué ses préceptes dans son organisation, sans génie, avec quelques absents, mais tout était calé sans aucune surprise. Alors que pour moi, il y a quand même un problème là avec l'entraîneur marseillais, M. Tudor, parce que vous faites des choix au départ. Et à la 60e minute, vous sortez Payet et Alexis Sanchez. Alors vous allez me dire, c'est après que Marseille se réveille. Marseille se réveille, mais est incapable de marquer un but. Suarez, il patauge avec la balle. Quand il a le ballon, il ne sait pas quoi en faire. Et Payet et Sanchez, leur tête, au moment où ils sont sortis, vous allez devoir gérer ça pendant des semaines. Donc pour moi, c'est une défaite de Tudor. Ce match-là, c'est Tudor qui l'a perdu.
Vous l'avez quand même un peu gagné, rassurez-vous, mon cher Thomas de Saint-Léger. Vous n'avez pas perdu votre soirée, en tout cas, elle est loin de se terminer. Vous avez encore du travail. On va vous libérer, mon cher Thomas, et
oui,
on va
Hugo,
vous remercier chaleureusement d'avoir été avec nous. Oui.
Je voulais juste en rajouter, si on fait le bilan un peu froid de cette soirée en 30 secondes, c'est quand même le bilan catastrophe. On a parlé effectivement des cas qui vont être à gérer, Suarez, Payet, Bailly qui s'est blessé.
Bien sûr.
Alors que la défense centrale était déjà bien... Enfin, la défense était déjà bien atteinte à ce niveau-là.
Bien décimée. Vous avez peut-être, on verra, mais il y a eu quand même du grabuge dans les tribunes, des décisions peut-être de l'UEFA suite à ça. Il y a eu des fumigènes, des pétards, etc. Vous êtes à 0 points en 2 matchs, vous êtes dernier. Bon, bah voilà, je vous dis, bilan un peu catastrophe ce soir.
Bon, bah.
Moins 3 de différence de but, ça va compter.
Essayez quand même de sauver votre soirée. Profitez bien de ce qui vous attend. Et bon retour sur Paris Manchère. Thomas de Saint-Léger,
bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée, bon courage. Toujours dans la poule de l'OM, vous parlez donc de la dernière place, de la différence de but négative, des deux défaites de Marseille. On va faire justement un point sur le classement avec Francfort qui rejoint Tottenham à la deuxième place. Oui, car Tottenham ne compte que 3 points comme Francfort, puisque Tottenham a été battu par l'étonnant leader de cette poule, à savoir le Sporting Portugal, qu'on annonçait peut-être comme l'équipe la plus simple sur le papier, la plus simple à aborder pour l'OM. Et bien le Sporting, après avoir gagné 3-0 en Allemagne contre Francfort, le Sporting s'est imposé 2-0 à la maison contre Tottenham. Sur le fil, c'est le moins que l'on puisse dire, 2 buts inscrits dans les arrêts de jeu, ce qui n'a pas plu au capitaine des Spurs, un certain Hugo Lloris.
Quand tu ressens dans le match que tu ne peux pas gagner, il faut surtout faire en sorte de ne pas le perdre, le match. Parce qu'aujourd'hui, c'est 3 points de plus pour le Sporting et nous, on reste dans la même situation qu'avant le match. Donc, ce n'est pas une bonne situation pour nous, mais encore une fois, on va continuer à travailler pour essayer de s'améliorer dans tous les aspects du jeu.
Bon, voilà, il n'est pas content, on a bien compris, Hugo Lloris, hein, c'est pas déclarations fracassantes qui le caractérisent. C'est étonnant, alors peut-être laisser Tottenham de côté 30 secondes pour parler du Sporting. On ne les attendait pas à ce niveau. Et une bonne leçon pour les clubs français ou les clubs comme Marseille, non ? Gilles Verdet, je ne veux pas enfoncer le clou, mais...
Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, ils ont eu 56% de possession. Ce n'était pas génial. Et c'est vrai que mentalement, dans le final, c'est pour ça que Lloris était très énervé. Lloris fait 2 parades, dont une à la 90e. Et puis, son équipe devient totalement friable, perd non pas ses nerfs, mais sa cohésion et s'incline 2 fois, 90e, 90+3, le duo Arthur Gomez-Poligno qui foudroie Tottenham. Donc le Sporting est une équipe qui, contrairement à Marseille, est animée par une flamme en ce début de Ligue des Champions. Un état d'esprit, une cohésion, mais surtout un mental à toute épreuve. Et là, les rendez-vous qui s'annoncent entre Marseille et le Sporting, il va falloir que Marseille élève considérablement son niveau de jeu et son niveau mental.
Vous analysez ça comment, Chérif Guémouré ? Est-ce que c'est une déroute de Tottenham qui s'est un peu tiré une balle dans le pied ? Ou est-ce que c'est clairement le signe que le Sporting Portugal, et donc, on en parle souvent du foot portugais, bon, encore que Porto ce soir, c'était pas tout à fait ça, mais voilà, montre des choses dont les clubs français, et j'y reviens, c'est un peu mon obsession du soir, devraient s'inspirer ?
Ils se sont surpassés, c'est une qualité que les clubs français ignorent, c'est-à-dire qu'en fait en deuxième mi-temps ils ont été bousculés par Tottenham. Après, Tottenham, c'est pas extraordinaire non plus, ça enfonce un peu plus Marseille sur l'ensemble des deux matchs, hein. Le Tottenham-Marseille et Tottenham-Lisbonne, on voit que c'est une équipe qui est prenable, en tout cas Lisbonne les a pris. Et puis après, pour le propos plus général, Tottenham, c'est pas une grande équipe de Ligue des Champions en fait. Alors je sais, on va me dire
qu'ils ont fait une finale.
Voilà, ils ont fait une finale en 2019. Mais quand on regarde, d'abord, ils participent pas régulièrement à la Ligue des Champions et quand ils participent, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, mais ça c'est comment dire, c'est on voit que cette équipe-là qui a pas l'habitude quand même de la Ligue des Champions, elle est à la portée du Sporting de Lisbonne et le Sporting de Lisbonne finit par gagner, ce que Marseille ne sait pas faire.
Donc voilà,
ça enfonce encore plus.
Ce point donc sur le groupe avec le Sporting devant Tottenham, Francfort et l'OM, on a peut-être tout dit, si ce n'est que le Sporting sera le prochain adversaire de l'OM sur les...
Bah oui, parce qu'en fait, on disait que Tottenham finirait premier et qu'il y aurait un duel pour la deuxième place entre Marseille et Lisbonne. Et Lisbonne est déjà en tête.
Ce qui complique les affaires des Marseillais. Puisque
ça complique les choses.
C'est contre le leader que vous allez devoir jouer.
Ça complique, mais je dirais que les 4 équipes restent quand même en course. On avait décrit un groupe homogène. Bah, il est homogène, le Sporting est devant. Mais voilà, Marseille n'a pas totalement abdiqué. Une révolution marseillaise dans le mental, dans la technique, vous me direz, ça fait beaucoup. Et Marseille peut espérer encore.
Mais oui, mais surtout qu'on l'attend depuis longtemps, cette révolution.
Il y aura contre le Sporting, mon
cher. Oui, bah voilà, il y aura peut-être un avant et un après Sporting Portugal pour l'OM. On va monter un petit peu en gamme dans cette deuxième journée de Ligue des Champions. La grosse affiche de la soirée opposée, le Bayern Munich au Barça, succès 2-0. Et c'est un Français, un Frenchie qui a, je ne le prononce pas en allemand, Franzose, je crois, qui a ouvert le bal sur le terrain de l'Allianz Arena.
Tribune, là où se trouvent les ultras du Bayern, Joshua Kimmich. Oh, la sortie catastrophique de la part de Marc-André Ter Stegen et Lucas Hernandez pour venir trouver la solution et permettre aux Bavarois, sur ce premier corner de la partie, et bien de mener à 1-0.
l'ouverture du score de Lucas Hernandez à la 50e minute, juste après la pause. Et puis, ça s'est enchaîné très vite avec le Roi, ou Leroy Sané, qui a doublé la mise à la 54e. Et c'est intéressant parce que le Bayern a fait un petit peu figure de monstre froid, le monstre froid qu'il savait être avant Nagelsmann, quelque part, parce que le Barça avait offert une belle partition et montré quelque chose de vraiment pas mal, avec notamment Lewandowski, évidemment, dans le coup en première période. Et le Bayern a finalement remis, on va dire, l'église au milieu du village. Est-ce qu'elle est un peu en trompe-l'œil, cette victoire 2-0, ou bien non? Est-ce que ça veut dire que la hiérarchie, le Barça a encore du chemin à faire pour rejoindre le Bayern?
La défense du Barça a du chemin à faire, parce que très franchement, il y a la sortie hasardeuse du gardien, mais vous avez quand même une défense qui est perforée. D'abord sur une reprise de la tête, puis après sur une accélération. Cette défense centrale au niveau Ligue des Champions, c'est quand même extrêmement fébrile. Et ça, c'est un vrai problème. Le Bayern n'a pas été génial. Va se reposer une nouvelle fois la question de Lewandowski dans les grands matchs, dans les très grands matchs. Là, il était face à son ancienne équipe.
Il a raté deux occasions en première période qui auraient pu faire la différence.
Et voilà. Est-ce qu'à un certain niveau, il n'atteint pas un plafond de verre? Ça, le débat va se reposer. Et franchement, Barcelone retombant dans ses travers d'une certaine nervosité. Donc, je suis plutôt inquiet pour Barcelone au vu de ce match.
Barcelone, pas un grand Bayern, mais toujours au-dessus du Barça, on peut le dire comme ça. C'est quoi? C'est les individualités, c'est le système, c'est aussi l'expérience. Qu'est-ce qui fait la différence?
Il y a plusieurs choses. D'abord, on n'a pas retrouvé le Bayern, mais même en Bundesliga, on ne retrouve pas le Bayern.
Les dynamiques étaient plutôt
inverses. La machine de guerre.
Le bon début de saison, c'était celui du Barça, ouais. Pas celui
du
Bayern.
Oui, oui, et le Bayern, on ne retrouve plus la machine de guerre, entre autres parce que depuis le départ de Lewandowski, ils n'ont plus un buteur unique, mais ils ont pas mal de joueurs offensifs qui sont susceptibles de marquer. Ce n'est pas encore au point. Et côté Barça, c'est une équipe encore en construction qui commence à rassembler à quelque chose en Liga. Et donc, alors, paradoxalement, je dirais que les niveaux se sont égalisés. Le Barça, c'est un peu mieux que l'année dernière. Et le Bayern, c'est un petit peu moins bien. Enfin, on ne retrouve pas la machine de guerre qui mettait 4, 5, 6 buts. Donc voilà, ça donne ce match 2-0 qui a été plié très vite. Mais il n'y a pas eu une avalanche non plus après.
Oui, c'est étonnant. Ça paraissait équilibré. Et puis finalement,
en même pas 10 minutes.
Après la pause, voilà, un petit peu comme si le patron faisait le job. Le Bayern a plié l'affaire. Le choc, la montagne a un peu accouché d'une souris à ce moment-là, d'une certaine manière.
Le patron, vous le disiez, puis l'employé ne se rebelle pas, donc accepte. Voilà. Sadio Mané sorti à la 70e.
Vous en avez pensé quoi de son match? Parce qu'on en a parlé en fin d'après-midi. Dans ce studio, voilà, c'est encore perfectible le mariage.
C'est toute l'attaque qui a été, c'est Sadio, toute l'attaque qui est reconfigurée. Là, on est parti en numéro 9, c'était Thomas Müller. Mais Thomas Müller n'est pas un numéro 9, c'est l'attaquant de.
Mais comme Sadio Mané est aligné dans l'axe, alors que c'est pas un numéro 9, c'est un système hybride.
C'est un système hybride qui peut marcher, mais qui pour l'instant n'a pas l'efficacité qu'elle avait avec Lewandowski.
Il se cherche. Il travaille beaucoup, mais. En ce moment, la réussite qu'il a connue en tout début de saison n'est pas là. Donc, c'est quelqu'un qui doute assez peu. Mais il ne faudrait pas quand même que s'ouvre un débat, y compris au sein de l'équipe, sur le fait que ce joueur recruté, notamment pour marquer, marque moins en ce moment. Mais il est précieux parce qu'il bosse. Mais ça, c'est lui. Il fait le pressing, il fait le job.
On ne pourra jamais lui reprocher son attitude,
son implication, effectivement. Mais il manque un peu de stats.
Il ne faut pas oublier qu'à Liverpool, c'était une attaque bicéphale. Ils étaient deux buteurs. C'était Salah et Mané. Donc là, il se retrouve dans un registre où il va devoir être numéro 9 tout seul. Et il n'a pas encore pris. Il n'a pas encore remplacé Lewandowski. Voilà, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un reproche qu'on lui fait. Il est talentueux, il continue de marquer régulièrement. Mais il n'a pas encore remplacé dans les cœurs et sur le terrain Lewandowski. On en est là pour l'instant, mais on n'est qu'au début de saison.
Une réaction après ce choc Bayern-Barça. Un défenseur français a été buteur et donc heureux après ce match chez Lucas Hernandez. De l'autre côté, il y avait Jules Koundé. Alors lui, il s'est incliné par deux fois avec sa défense. Donc forcément, on l'imagine un tout petit peu plus déçu.
La déception, la frustration. Je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps. On s'est créé des occasions très, très nettes. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer, à concrétiser. Et après, en deuxième mi-temps, on a la première occasion. Pareil, on rentre bien et puis on se déconcentre sur un coup de pied arrêté. Je pense que ça leur a donné beaucoup de confiance. Ils ont été poussés par le public. C'est une très bonne équipe aussi. Et on encaisse ce deuxième but un peu rapidement aussi, qui nous fait du mal. Si on avait mis nos occasions, ça aurait été différent. Mais on a fait un bon match dans l'ensemble. Il reste encore beaucoup de matchs et voilà, on va continuer à travailler.
Jules Koundé, hein, qui pourrait faire un excellent journaliste sportif, là, il a tout synthétisé, c'était clair, carré, mais fait-il un... Eh, il pourrait, il parle très bien en tout cas, il est encore jeune, il parle extrêmement bien, mais fait-il un bon défenseur pour le Barça? C'est ça qu'on voudrait savoir. Vous avez parlé de la défense, qu'avez vous pensé de Jules Koundé notamment?
Ben, c'est pas mal, mais alors son constat est froid, clinique, professionnel, mais il dit quand même, on se déconcentre, d'un air naturel, et c'est très bien, je ne lui reproche pas, mais on se déconcentre sur coup de pied arrêté, on est quand même Bayern de Barça. Ligue des Champions, on se déconcentre pas.
Pas sérieux.
Sur... Bah non, on se déconcentre pas sur coup de pied arrêté. Non, c'est pas possible. Et c'est vrai que il a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas sublimé la défense du Barça et il n'a pas encore. Alors le peut-il, mais réussi à redonner une constance défensive au Barça. Vous voyez, à un moment, il se déconcentre et c'est fini. Face au Bayern, c'est fini. Ça fait un puis deux et c'est le match est perdu.
Allez, néanmoins, si on devait peut-être finir sur une note positive pour le Barça. Les derniers Barça-Bayern avaient été ce qu'on désigne communément comme des boucheries. Le 8-2 en demi-finale et les 3-0 en phase de poule. Il n'y avait clairement pas photo. Il y avait plusieurs divisions d'écart entre ces deux équipes. Là, l'écart, si on s'en tient à la rencontre de ce soir, il se resserre et c'est plutôt bon signe pour un Barça qui, de toute manière, a dépensé des 1000 et des 100 cet été pour revenir dans la cour des grands chefs Guémor.
Oui, malgré son statut prestigieux, le Barça, entre guillemets, revient en Ligue des Champions.
Oui, donc ça, c'est pas rien.
Ouais, c'est pas rien. C'est pas encore ça.
Bon, vous voulez rester mesuré dans votre satisfaction pour le Barça qui rejoint au classement, donc classement dominé par le Bayern, hein, deux victoires en deux matchs. Le Barça est rejoint par son principal concurrent pour la qualification en huitième au classement, par l'Inter Milan qui s'est imposé 2-0 contre le Viktoria Plzeň qui va... semble-t-il jouer un peu son rôle d'équipe contre laquelle on fait le plein de points.
De boulet,
boulet. On appelle ça faire son Olympique de Marseille dans le jargon.
Je retire boulet alors.
L'Inter Milan qui gagne contre Pilsen. Vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, cher Guémor?
C'est plutôt bien pour le suspense parce qu'en général, l'Inter ces dernières saisons a eu du mal à passer le premier tour, voire ne l'a pas passé du tout, en tombant sur des groupes assez difficiles.
Bah là encore, une nouvelle fois cette saison.
Donc là, il va sûrement y avoir une lutte à deux pour la seconde place entre le Barça et l'Inter.
Dzeko et Dumfries. Hein,
on se contredit ça.
Un but à la 20e, un but à la 70e. Donc une affaire rondement menée pour l'Inter Milan dans le groupe C, donc dominé par le Bayern. Direction le groupe de Liverpool, la poule A, où là il n'y avait qu'un match, celui des Reds justement, mais ça vous a particulièrement intéressé, Chérif Guémor, puisque c'était face à l'Ajax Amsterdam. L'Ajax qui avait gagné 4-0 hein, son premier match, j'ai oublié le nom de l'adversaire, mais c'était une belle entrée en matière pour l'Ajax contre les Rangers effectivement, tandis que Liverpool en avait pris 4 face au Napoli. C'était le dernier match en date des Reds qui ne réalisent pas un bon début de saison, qui avait besoin de se rassurer. Ce soir, au final, un succès 2-1 avec un Salah qui retrouve le chemin défilé. Un autre buteur africain, Joël Matip, dans les derniers instants, parce qu'entre temps, et décidément, il y en a des Africains qui ont marqué ce soir à Anfield, Kudus avait égalisé pour l'Ajax peu avant la demi-heure de jeu. Succès, comment vous le qualifiez du coup, ce succès de Liverpool face à l'Ajax, c'est convaincant ou alors au contraire toujours un peu inquiétant?
Alors, on a retrouvé le Liverpool de ces derniers temps, c'est-à-dire beaucoup d'occasions, beaucoup d'intensité, mais un manque d'efficacité flagrant. Sincèrement, ce soir, il doit y avoir 10-1, je suis sérieux, 10-1 pour Liverpool, entre les poteaux, les arrêts
du gardien.
Mais
ça, c'est bon signe ou c'est inquiétant?
Non, parce que c'est constant, ils n'arrivent pas. Je veux dire, c'est d'où les matchs nuls qu'ils font en première ligue. Hein, c'est cette difficulté qu'ils ont à gagner. Les occasions sont là. L'intensité, elle est là. Ils ont du mal à marquer. Et évidemment, quand ils se sont fait égaliser, parce qu'ils ont marqué le premier but très, très, très tôt par Salah, C'est une équipe qui se met à douter, bon, qui repart hein, quand même. On fait rentrer des nouveaux joueurs, les attaquants, Diogo Jota et tout. Ils sont tous rentrés. Et en fait, voilà, c'est encore un but de défenseur sur un coup de pied arrêté qui fait la différence.
Bon, on rappelle qu'il y a pas mal de blessés aussi hein, du côté de Liverpool.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Au milieu de terrain, notamment.
Mais là, un problème se pose parce que rater autant d'occasions, quelque part, c'est plus de la malchance ou un manque d'efficacité. Il y a quelque chose qui s'est grippé.
Il faut se faire à s'habituer à ne plus avoir Sadio Mané. Il faut que Salah s'habitue à être peut-être le seul
oui,
faire
balance de sa vie. Il a voulu être le seul.
Il a voulu, mais il avait du mal.
Il sera jugé là-dessus.
Hein. Ouais, il avait du mal et là, il a marqué. Et là, il a marqué. Et oui. Il y a aussi Darwin Núñez qui doit s'adapter. Luis Diaz n'est pas encore Sadio Mané.
Il ne le sera jamais, d'ailleurs.
Donc, bon, vous l'analysez comment, la soirée de Liverpool et globalement le début de saison de Liverpool, Gilles Verdens?
J'ai peur que ce soit une fin de cycle. Alors, on est en début de saison.
On en est peut-être là.
Mais ouais,
mais déjà dans le mental déjà.
C'est plus leur momentum, c'est-à-dire que oui là ils gagnent, mais on voit comme le disait Shérif, ils dominent largement, ils gagnent difficilement. Ils peuvent être en difficulté défensivement, il y a moins de sérénité. J'ai l'impression aussi que certains joueurs sont repus de victoire et ont moins envie d'exprimer cette grinta. Peut-être que Klopp, parfois, il y a certains signes, non pas de renoncement, mais je pense que lui se dit aussi que le meilleur est peut-être passé. Donc attention, hein, c'est une grande équipe, ils vont peut-être faire une super saison. Mais j'ai quand même une vive inquiétude par rapport à Liverpool. De toute façon, sans Sadio Mané, vous êtes perdu, mon cher.
Enfin, en tout cas, si on se nomme Liverpool pour le Bayern, voilà, c'est pas encore ça.
Juste une chose, ce Liverpool ne fait pas peur. Et c'est un peu le cas des grandes équipes européennes. Je pense particulièrement à la Juve, à la Juventus. Quand ces équipes-là ne font plus peur, qu'elles deviennent abordables, elles deviennent friables, elles deviennent...
Comme Barcelone.
Voilà, c'est même ça. Voilà. Barcelone ne fait pas peur.
Ouais. Le Real fait peur, voilà. Barcelone ne fait plus peur. Et donc, vous pouvez gagner des super matchs, mais à tout moment, vous pouvez perdre.
Et l'Ajax, en face, vous les avez trouvés comment? C'est un club qui vous est cher. Avec notamment Mohamed Kudus qui a été buteur pour la deuxième fois d'affilée en Ligue des Champions. Le jeune Ghanéen qui est en train de se révéler au très haut niveau.
Oui, très, 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 très beau but. Mais là, ils ont été enfoncés. Ils ont été mis sous pression. Non, ils n'ont même pas... Habituellement, l'Ajax, même quand ils perdent, ils arrivent toujours à développer un peu de jeu, avoir quelques occasions, faire des sorties de balles, faire un peu de possession. Non, là, ils ont été complètement engloutis, naufragés. Et 2-1, ils s'en sortent très bien. Heureusement qu'ils ont gagné le premier match contre le Celtic. Mmh. Ça fait une bouffée d'oxygène.
Non, contre...
Celtic.
C'est pas le Celtic.
Rangers.
Pardon, c'est contre les Rangers.
Ah ouais, là, vous allez... l'antenne de RFI, le signal de RFI non, est bloqué à Glasgow, merci.
Ça offre un petit matelas, puis là, ça fait une défaite d'un but d'écart, donc ils maintiennent une différence de but.
Mais ça veut dire quoi que Liverpool, finalement, même en n'étant pas flamboyant, voilà, montre bien que ce sera Liverpool et Napoli qui vont se disputer la qualification, et l'Ajax va être un petit peu dans la troisième roue,
je pense. L'Ajax est en dessous et on n'est plus du tout dans l'Ajax 2019. Là, faut bien se réveiller.
Gilbert,
le modèle de l'Ajax est éternel, mais il ne peut pas se renouveler chaque saison. Si vous prenez la longue durée, oui, il y aura des générations formidables de l'Ajax.
Il y aura encore des beaux matchs, des beaux buts.
Absolument, mais le pillage, enfin la vente, ce modèle. Chaque saison, vous avez des trous. Donc là, ce sera sans doute
c'est
pas...
C'est des très jeunes qui rentrent, hein, très jeunes du 19-20 ans.
Mais vous avez des joueurs africains, c'est une belle pépinière pour les joueurs africains.
Mais formidable pépinière, mais au plus haut niveau de la Ligue des Champions, il ne peut pas y avoir, entre guillemets, des miracles ou des accomplissements chaque année.
De Bertrand Traoré à Kudus, en passant par Onana ou Ziyech ou Lassina Traoré, Sébastien Haller.
Super formation, voilà, bien sûr.
Formation ou même des joueurs...
Post-formation.
Une sorte de post-formation également, voilà, pour l'Ajax, qui reste quand même évidemment un monument du football européen. Une belle équipe qu'on apprécie voir dans cette Ligue des Champions. Un dernier mot sur ce début de deuxième journée. Ça continue demain avec évidemment Radio Foot au rendez-vous pour tout vous dire. Il y aura notamment le PSG sur les terrains. On ne s'ennuie jamais. Un dernier mot sur la soirée de ce mardi, le groupe B. Et le succès, c'est l'une des surprises. D'ailleurs, il y a eu deux surprises vraiment dans cette poule. Le succès du Bayer Leverkusen contre l'Atlético de Madrid à domicile avec un but de Diaby, le français, et puis le carton de Bruges à Porto. Alors là, on a un peu un duel de clubs que les clubs français, dont les clubs français devraient s'inspirer. Ce sont les Belges qui nous font la leçon contre les Portugais. Le succès 4-0 de Bruges contre Porto. Vous voulez commencer par quoi, Chérif Guémant? Bruges, ça vous a beaucoup plu, hein?
Ça m'a, parce que c'est un succès net. Avec des beaux buts. Là, pareil, on retrouve ce qu'on appelle les ingrédients de la Ligue des Champions, c'est-à-dire l'efficacité, le mouvement, la gestion, parce qu'ils n'ont pas pris de but, et surtout une grande concentration. J'ai presque envie de parler de sérieux. On ne devrait pas parler de sérieux au niveau de Ligue des Champions. On devine que toutes les équipes sont sérieuses, ce qui n'est pas le cas de Marseille, évidemment. Mais quand on voit Bruges, c'est clair, net et sans bavure.
Et ça fait plusieurs saisons que ça dure, parce que le PSG
s'installe dans la compétition.
Ou en 2018-2019,
ils avaient fait de très bonnes figures.
Voilà,
ils ont perdu des joueurs. Ils ont avec Kettler qui est parti en Italie. Et ça reste compétitif. C'est pas génial non plus. Hein, on va pas grimper au rideau. Mais 4-0.
Mais ça compte 2 points.
Porto.
2 victoires, pardon, en 2 journées. C'est
voilà,
2
victoires en 2 journées. Et Porto, c'est quand même un des ténors du football européen. Ça reste.
Moi, ce qui m'a intéressé dans ce groupe, c'est la défaite de l'Atlético Madrid. Moi, je préfère toujours parler. J'aime bien parler de ceux qui ont perdu, moi. Ouais. Et là, quand même, non, mais alors peut-être pas surprenant, mais là, pour le coup, fin de cycle. C'est à peine sérieux. Leverkusen, franchement, c'est une équipe de moyenne gamme.
Vous êtes un peu dur. C'est une équipe qu'on voit régulièrement, on va dire, en huitième.
Non, pas
qu'on
pas
a vu régulièrement huitième de la Ligue des Champions.
Pas tous les ans en huitième.
C'est un peu moins vrai ces dernières saisons.
Et au mieux en huitième, alors, où
temps
en temps.
Oui, non, c'est clairement pas un ténor.
Ou alors en Europa League.
Mais oui, mais l'Atlético Madrid, elle, est une équipe qui doit aller plus loin, qui allait plus loin. Et là, franchement, on a l'impression qu'ils ne sont plus dangereux. Ils n'ont même plus de modèle tactique cohérent. Avant, ils faisaient déjouer. Ce n'était pas spectaculaire, mais ils ne perdaient pas ou ils gagnaient 1-0. Là, on a l'impression qu'ils se renient pour aller vers, non pas un néant, mais au moins un certain vide. Je suis très déçu. Non, mais
et pourtant, à l'heure de jeu, il y a toujours Antoine Griezmann qui entre en
cours
de jeu.
Il a eu un coup franc à un moment. Il a eu un coup franc.
On rappelle, il y a un espèce de... un imbroglio, je ne sais pas comment qualifier la situation.
S'il joue moins d'une mi-temps,
l'histoire de clause
à payer. Une histoire de clause entre les deux clubs.
Donc là, rien que voir un joueur comme Griezmann pris dans un deal comme ça, c'est d'une tristesse infinie.
Clairement, l'Atlético, Juventus, Manchester United avant l'arrivée de notre ami
Ten Hag,
c'est le football d'avant, c'est qui n'a plus rien à proposer, qui n'a plus d'inspiration, plus d'idées.
Et c'est sur la base de la soirée de ce mardi que vous faites ce constat de changement d'air dans le
non je le fais depuis je
dans
le fais
la Ligue des Champions
je le fais depuis un an avec l'arrivée des clubs, je l'ai dit, avec des clubs comme l'Atalanta, Leipzig, le Liverpool et le Chelsea qu'on a connu en partie un peu le Real Madrid qui s'est un peu rajeuni l'année dernière, mais pareil, qui prenait le chemin du football d'avant. Et le football d'avant, c'est un football qui n'a plus d'idées, qui ne sait plus où il va et qui n'a plus rien à proposer. L'Atlético, ça fait quand même maintenant minimum 2 saisons qu'ils n'ont plus rien à proposer. Donc on n'est pas étonné. Ils ont gagné 2-1 à l'arrache la semaine dernière. Donc voilà. Alors évidemment, il y a toujours le sursaut, la Grinta, Simeone et tout. Bon, ils passeront peut-être le premier tour. Mais là non plus, c'est l'équipe qui fait plus peur.
Voilà pour la Ligue des Champions ce soir. La deuxième journée de la phase de poule continue demain. Radio Foot sera au rendez-vous avec 2 services là encore et le retour en direct à 21h10. Pardon. Temps universel, on va refermer le journal L'Équipe. On va quitter les stades de la Ligue des Champions. Direction, messieurs, le quartier latin et ouvrez votre exemplaire des cahiers du cinéma, s'il vous plaît.
C'est vraiment dégueulasse.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
Qu'est-ce que c'est, dégueulasse?
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là, les dernières répliques d'À bout de souffle, le premier chef-d'œuvre de Jean-Luc Godard.
Belmondo,
effectivement, qui échange ces dialogues un peu surréalistes, mais néanmoins mémorables. Jean-Luc Godard, donc la grande figure, le cinéaste franco-suisse, grande figure de la nouvelle vague, grand mouvement dans l'histoire du cinéma qui s'est éteint aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on en parle dans Radio Foot de Jean-Luc Godard? Non pas qu'il ait, à proprement parler, fait des films sur le foot, hein, comme Jean-Jacques Hano, ou non pas qu'il ait réalisé lui-même des matchs de foot, encore que l'idée encore aurait été caressée, si on en croit ces biographies qui fleurissent sur les internets. Mais Jean-Luc Godard, déjà, a pratiqué le football. Il a été un grand sportif et il s'est régulièrement exprimé sur le ballon rond. Enfin, le football a parfois occupé une place en arrière, voire au premier plan dans sa cinématographie, dans son œuvre. Je vous donne quelques exemples. Il n'y a pas si longtemps, dans un film Socialisme, c'est le nom du film, en 2010, des images d'André Iniesta qui joue avec le maillot du Barça. On a également des commentaires d'un vieux match du Real en 1964 dans Une femme est une femme. On a des images de Johan Cruyff à la télé dans Numéro 2, 1975. Voilà, entre autres pour les citations du football chez Godard. On a aussi une belle interview dans l'équipe, dans le journal d'équipe donné en 2001, qui a été ressorti tout à l'heure par le site internet, et il parle de la réalisation du football, de son rapport au sport, la réalisation du sport à la télévision. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gilles Verdez, vous, l'érudit?
Alors, Godard, en sport, c'était la pratique du tennis et l'amour du foot. Grand tennisman, grand joueur de tennis, et il adorait le foot. Alors à la fin, il a été un peu fâché avec le foot, à tel point qu'il a dit « laissez-moi juste les tirs au but, dans la dramaturgie, supprimez le reste, autant aller directement aux tirs au but ». Mais pour lui, il y avait une vision sociale du football. Il a prononcé cette phrase « la révolution en France, c'est facile, vous supprimez le foot à la télé et les gens descendent dans la rue ». Donc il savait l'importance du football dans la société française. Il avait une vision et il avait été un peu, entre guillemets, dégoûté du foot après le drame du Heysel, qui l'a profondément marqué. Le drame du Heysel l'avait marqué.
Alors, les années 80, la finale de la Juventus contre Liverpool,
Juventus
à Bruxelles.
À Bruxelles, ce drame épouvantable avec des dizaines de morts, ça l'avait marqué. C'était d'ailleurs apparu en réplique ou en filigrane dans certains de ses films. Donc il était un peu désenchanté du football. Mais le sport était une passion pour lui. Le sport était pour lui un reflet de la société.
Alors je vous ai parlé de l'interview qu'il avait accordée au journal L'Équipe en 2001, c'est du Godard, c'est-à-dire que c'est pas toujours facile à suivre, c'est très intellectuel. Oui. C'était aussi ça la nouvelle vague. C'est parfois un peu, ça peut paraître un peu décousu, un peu lunaire, comme on dirait aujourd'hui. Et en même temps, il dit des choses très intéressantes. Alors, ce serait beaucoup trop long de vous donner toutes les citations de Godard sur le football, mais effectivement, dans ses prises de parole, pas qu'au journal L'Équipe, il parlait des pénalties et de la télévision. Il faudrait que la télévision ne diffuse que la séance des tirs au but, qu'une chaîne ne donne que cela, et s'il n'y a pas de pénalty, elle ne donne pas le match. Le football, je ne sais pas si ça peut être filmé en direct, mais en recomposé, oui, pourquoi pas. Au football, on se contente de filmer le résultat, le spectaculaire, mais chaque match est différent. Au Cerf-Sedan, ce n'est tout de même pas la même chose que Dynamo de Moscou, Juventus Turin. On ne doit pas filmer ça de la même manière. Il y a beaucoup de réflexion de Godard sur la manière dont on filme le sport et le football. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a intéressé, cher Yves Guémoin?
Oui, alors après, Jean-Luc Godard, c'est un cinéaste total, dans le sens qu'il mettait dans son cinéma toutes les disciplines aussi variées que la peinture, la musique, le sport. Donc, c'était une œuvre totale. Après, quand il parle du sport, il parle beaucoup de réalisation, évidemment, parce que lui, il a l'œil du cinéaste. Faut dire la vérité, c'est qu'il est un peu barré, mais barré dans le sens artistique. C'est que lui, quand il décrit la façon dont on devrait filmer, surtout, il le fait surtout par la négative. Il dit surtout, il ne faudrait pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. D'accord, mais alors comment on fait? Donc voilà, il a une vision artistique.
Politique aussi, un petit peu
politique,
du football.
Politique,
il parle du football hongrois, du grand football hongrois des années
50-60. J'y arrive. Ouais. Et je pense que, par contre, il y a quelque chose qui me frappe, c'est quand on observe sa filmographie. La filmographie de la fin des années 50, début des années 60, quelque part, dans la fluidité de ses films, dans la concision, dans le récit à peu près classique avec j'allais dire presque académique, même si c'était de la nouvelle vague, on retrouve un peu le football de l'époque, c'est-à-dire un football fluide avec beaucoup de buts. Et plus on avance dans la filmographie des années 60 de Jean-Luc Godard, Une femme est une femme, One plus One ou La Chinoise, c'est un cinéma beaucoup plus saccadé, qui est la fluidité, la narration est beaucoup plus ralentie, elle est entre guillemets parasitée par des images de concerts. Et on retrouve là l'évolution du football, c'est-à-dire un football plus saccadé, avec une narration moins fluide et avec des scores un peu plus rabougris. C'est à ça que j'avais pensé. D'où...
C'est joli la campagne. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Ça ne vous est pas adressé, cher Vigamour, mais là on est dans du Godard, c'est-à-dire qu'on a un montage comme dans un souffle qui n'est pas fluide, pour le coup.
Non. Par contre, on a un montage très dynamique, parce qu'au début, le film devait faire 2h30, là, et il a coupé un peu partout.
Quitte à couper la parole à ces personnages, comment on vous a coupé la parole ?
Il y a du jazz derrière, donc comment ça s'appelle ? On retrouve la fluidité de la fin des années 50. Pour moi, c'est une interprétation. Et plus on avance dans les années 60, et plus son cinéma est à l'image du foot de son époque, c'est-à-dire moins de buts, saccadé, haché. Et avec des ruptures, un cinéma de rupture, de la fluidité à la rupture.
Mais déjà qu'il s'exprime sur la place du sport et notamment du foot à la télé en réfléchissant, est déjà un honneur pour le foot parce qu'il n'aimait pas la télé. Il détestait, il a passé sa vie à détester la télé. Pour lui, c'était l'antici.
Je regarde peu de choses à la télévision, mais je regarde encore le sport, disait-il justement au début du 21e à l'équipe, parce que c'est resté quelque chose où le corps ne ment pas. Et alors, il y a autre chose intéressant, c'est même Tapie, lorsqu'il perdait sur un stade de foot, Bernard Tapie, il ne pouvait pas dire « j'ai gagné », alors que dans d'autres domaines, même ministre, il pouvait dire n'importe quoi. La politique, le cinéma, la littérature mentent, pas le sport.
Voilà, le sport ne ment pas, parce que le sport, c'est le résultat. Il y a un gagnant, un perdant. Il y a une expression qui est illustrée par un résultat ou de bonheur ou une expression de malheur après une défaite. Et donc ça, pour lui, c'était l'aboutissement. Parce qu'il y a une vérité, la sienne, mais celle du résultat du football. Et pour lui, ça transcendait tout. Et c'est vrai que... Dans la télé, il ne sauvait que le sport, le tennis et le foot globalement. Mais sinon.
Et encore, sans les commentaires.
Sans les commentaires.
Oui, effectivement, il est très dur. Ouais. Il est très dur avec les commentateurs. Alors, j'ai pas sorti la citation parce que ce serait un peu comme se tirer une balle dans le pied.
Peu de gens trouvaient grâce à ses yeux globalement. Hein, il faut le dire aussi.
Globalement, il avait cet élitisme qui peut parfois définir le.
Après, c'est un connaisseur aussi. Moi, je comprends parce qu'au début, je comprenais pas. Bon, par exemple, il reprochait certains commentaires de tennis. Je suis désolé, moi, quand je ne suis pas un spécialiste de tennis, les commentaires m'éclairent un peu. Est-ce que lui, qui pratiquait le tennis à un très bon niveau, tu as raison,
oui.
Peut se passer des commentaires. Mais c'est marrant parce que c'était pareil pour Michel Legrand, grand compositeur
de musique.
Grand tennisman, pareil, il ne supportait pas les commentaires, il éteignait le son. Mais parce que lui aussi connaissait très bien le tennis.
Et ce sont des grandes figures de la culture populaire et du cinéma qui sont parties récemment. Vous êtes très glamour, messieurs Gilles Verdez, Chérif Guémour. Mais si on laissait Michel Piccoli et Brigitte Bardot nous bercer pour la fin de cette émission.
Oui.
Avec la musique de Delerue.
Tu la trouves jolie ?
Oui. Très.
Et mes filles, tu les aimes ?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi ?
Oui.
Inoubliable scène au début du film Le Mépris, l'un de ses chefs-d'œuvre dans les années 60, Michel Piccoli, Brigitte Bardot. Encore quelques citations de Godard qui étaient... Peut-être moins fan de la glamourisation des champions du monde 98. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent une photo de Zidane en une d'un magazine de foot plutôt qu'une photo d'un ballon. Et il faudrait...
Il a aussi dit quelque chose
sur Fabien Barthez. Si on avait su que tout ça finirait par Barthez embrassant un McDonald's, on se serait méfié. Merci
ça,
Gilles Verdez, merci Chérif Guémour, Radio Foot. Reviens demain, très bonne soirée sur RFI.